Il est midi et demi sur France Culture. Et c'est l'heure de votre journal. Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le Liban est au cœur du conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Riyad accuse ce matin Beyrouth de lui avoir déclaré la guerre. Analyse de Nadine Epstein dans cette édition, commentaire de Frédéric Ancel. Donald Trump en Corée du Sud, il assure être prêt à utiliser la pleine puissance de l'armée américaine pour empêcher la Corée du Nord d'atteindre ses objectifs nucléaires et balistiques. Correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias. Le profil de l'auteur de la fusillade de dimanche dans une église baptiste d'un petit village texan, 26 morts, 20 blessés, et maintenant mieux connu, l'armée de l'air a reconnu qu'il avait servi dans ses rangs et que son commandement avait omis de faire remonter au FBI des informations relatives à sa condamnation en 2012 par une cour martiale pour des violences domestiques. Précision de Tara Schlegel. L'augmentation sensible du nombre de suicides dans la police en France. 39 fonctionnaires de police ont mis fin à leur jour depuis le 1er janvier. Compte rendu d'Antoine Maret et puis les Paradise Papers. Après Apple et Nike, nouvelle révélation sur l'évasion fiscale pour les groupes Whirlpool et Total, suivi d'Abdelhak El Idrissi et de Benoît Colomba à la fin de cette édition avec notre invité Éric Vernier, qui est spécialiste des paradis fiscaux et des pratiques d'optimisation. Le Liban, donc véritablement au cœur, enjeu de ce conflit régional qui monte entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Riyad accuse même ce matin Beyrouth de lui avoir simplement déclaré la guerre. Le ministre saoudien des Affaires du Golfe affirme en effet que les actes d'agression commis par le Hezbollah dans le royaume saoudien sont considérés comme une déclaration de guerre contre l'Arabie Saoudite par le Liban et par, je cite, le parti libanais du diable. Dans le communiqué qui annonçait sa démission, l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri faisait lui état aussi d'un complot, un complot en vue de l'assassiner, et il accusait aussi l'Iran et le Hezbollah d'entretenir les tensions dans le monde arabe. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Bon, cette crise ramène donc le Liban une nouvelle fois au premier plan de cette scène moyenne-orientale sur laquelle l'Arabie et l'Iran s'affrontent pour l'heure indirectement dans plusieurs conflits, la Syrie, l'Irak, le Yémen, mais aussi Bahreïn.
Il y a d'abord eu un missile balistique tiré depuis le Yémen vers l'aéroport international de Riyad, et l'Arabie Saoudite a aussitôt accusé l'Iran de fournir des équipements militaire clandestinement aux rebelles Houthis, incident qui a ravivé les tensions entre les deux rivaux et poids lourds du Moyen-Orient, chacun rejetant la responsabilité sur l'autre. Puis au Liban, le Premier ministre a démissionné, parlant de menaces sur sa vie et d'agissements de l'Iran via son allié chiite libanais, le Hezbollah, déjà accusé d'avoir tué Rafik Hariri en 2015. Pourtant, Beyrouth avait accepté les conditions posées par le Hezbollah pour son entrée dans le gouvernement, à savoir la suspension de l'enquête sur l'assassinat du père Hariri. 10 jours avant la démission de Saad Hariri, un de ses ministres avait tweeté demandant à la nouvelle coalition libanaise de se séparer des ministres du Hezbollah. Message qui mettait le Premier ministre dans une position inconfortable. Et le prince héritier d'Arabie Saoudite aurait alors convoqué Saad Hariri. Tout ceci remet en cause sérieusement l'unité nationale libanaise revendiquée par le Hezbollah, et les élections de mai prochain au Liban apparaissent comme un véritable test. C'est depuis Riyad que le protégé de l'Arabie Saoudite, Saad Hariri, a annoncé sa démission, dénonçant l'ingérence iranienne au Liban. « On doit couper la main de l'Iran au Liban », a-t-il dit, estimant que le contexte politique lui rappelait celui de l'assassinat de son père. Face à cette escalade verbale entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la Russie joue les go-in-between. Vladimir Poutine était à Téhéran. Le roi d'Arabie Saoudite s'est récemment rendu à Moscou. La Russie vise à occuper le vide laissé par le leadership américain au Moyen-Orient.
Nadine Epstein, merci beaucoup. On est en ligne avec Frédéric Ancel. Bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un dictionnaire géopolitique paru cette année aux presses universitaires de France. Une guerre encore relativement froide entre les deux puissances régionales. Est-ce qu'elle peut prendre un tour plus grave encore selon vous ?
Oui, elle peut prendre un tour plus grave, mais si vous voulez, un peu à la manière de ce qui s'est produit à l'époque de la vraie grande guerre froide, c'est sur des territoires connexes. Et d'ailleurs, ça a été très bien dit par Madame Epstein, c'est-à-dire que le Liban d'une part, le Yémen d'autre part, la Syrie sont déjà des théâtres d'opérations très durs, très lourds, très militaires, bien sûr, entre Riyad et Téhéran. Mais je ne crois absolument pas à une escalade au sens où on verrait ces deux États, qui sont bien évidemment respectivement le centre, le cœur, le noyau des deux axes chiites d'une part et sunnites d'autre part, se livrer à un combat frontal. C'est quasiment impossible, notamment du fait de, malgré tout, de la présence américaine en Arabie.
Il y a quand même eu, Frédéric Ancel, cette passe d'armes assez incroyable au sujet du Yémen, déclenchée par un tir de missile de rebelles yéménites qui a été intercepté au-dessus de l'aéroport international de Riyad avant-hier.
C'est absolument hallucinant, ou plus exactement, c'est la toute première fois depuis la création du Royaume saoudien en 1932 que l'espace saoudien est violé de cette manière-là, et pas de n'importe quelle manière, puisqu'effectivement, ce sont des rebelles pro-iraniens du Yémen qui l'ont propulsé. Sauf que ces gens-là, bien évidemment, vous l'imaginez, ne produisent absolument pas ce genre d'armes. Donc c'est bien un missile iranien. Donc oui, vous avez raison, on assiste à une véritable escalade qui n'est plus seulement rhétorique, verbale ou politique, mais malgré tout, encore une fois, je pense que on n'ira pas à la guerre frontale, en quelque sorte, entre l'Iran et l'Arabie saoudite.
Dans cette confrontation, est-ce que l'Iran n'est pas d'ores et déjà en position de force ?
Si, et c'est la raison pour laquelle l'Arabie saoudite semble perdre pied, ou en tout cas perdre ses nerfs depuis plusieurs années, avec le déclenchement de cette guerre au Yémen qui d'ores et déjà est totalement ratée, avec la politique ayant consisté à faire chuter le cours du brut, ce qui coûte très cher à l'Arabie saoudite aussi, hein, et pas seulement aux producteurs de schiste américains ou à l'Iran. Et puis aujourd'hui, avec cette volonté du jeune prince Ben Salman, de verrouiller à l'intérieur et à l'extérieur tout ce qui peut apparaître comme de près ou de loin favorable ou plein de mansuétude avec l'Iran. On a d'ailleurs vu que la crise avec le Qatar déclenchée en juin dernier, avait aussi pour toile de fond la montée en puissance de l'Iran, qui le véritable épouvantail aujourd'hui pour Riyad.
Frédéric Ancel, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Le président américain est arrivé ce matin en Corée du Sud. C'est la seconde étape de sa visite en Asie. Conférence de presse donc à Séoul, où il assure qu'il est prêt à utiliser la pleine puissance de l'armée américaine pour empêcher la Corée du Nord d'atteindre ses objectifs à la fois nucléaires et balistiques. Mais il assure dans le même temps qu'il y a des progrès qui ont été faits pour régler ce dossier du nucléaire nord-coréen. Frédéric Ojardias suit pour nous cette visite.
Donald Trump et Moon Jae-in ont tenu à afficher la solidité de leur alliance militaire et leur détermination à dénucléariser de façon pacifique la péninsule coréenne. Le président américain a fait preuve de retenue, il s'est abstenu de toute provocation visant Pyongyang. De ce point de vue, sa visite est déjà un succès pour les Sud-Coréens qui craignaient des invectives qui auraient aggravé les tensions. Donald Trump a aussi assuré observer des avancées sur le dossier nucléaire.
Oui, je pense que nous faisons d'importants progrès. Nous montrons notre grande force. Je pense que les Nord-Coréens comprennent que notre force est sans équivalent. Nous avons envoyé dans la région trois des plus grands porte-avions du monde. Ils sont maintenant en position. Nous avons un sous-marin nucléaire, lui aussi en position. Nous avons beaucoup de choses que nous espérons devant Dieu n'avoir jamais à utiliser. Ceci étant dit, je crois vraiment que ce serait raisonnable pour la Corée du Nord de venir à la table des négociations et de parvenir à un accord.
Cherchant à apaiser les inquiétudes de Séoul, Donald Trump a promis de ne pas négliger les positions sud-coréennes au sujet de la crise actuelle, et il a conclu en demandant à la Corée du Sud d'acheter davantage de matériel militaire américain.
On connaît maintenant un peu plus précisément le profil de l'auteur de cette fusillade de dimanche dans une église baptiste dans un petit village texan. Bilan de la tuerie, rappelons-le, 26 morts et 20 blessés. L'armée de l'air a reconnu ce matin qu'il avait servi dans ses rangs entre 2010 et 2014 et que son commandement avait omis de faire remonter au FBI des informations qui étaient relatives précisément à sa condamnation par une cour martiale. C'était en 2012 pour des violences domestiques sur sa première épouse et sur aussi le bébé de cette dernière. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc le tireur a 26 ans, il avait aussi envoyé des menaces à sa belle-mère qui fréquentait cette église. Les autorités évoquent la piste familiale. C'est une histoire qui est à la fois très singulière et assez banale finalement.
C'est en tout cas la tuerie la plus meurtrière perpétrée au Texas, et le profil de Devin Kelly n'est pas vraiment banal. Certains de ses anciens camarades disent avoir passé du bon temps à l'époque avec lui, mais d'autres affirment que ses parents le bourraient de médicaments il y a déjà des années. Kelly s'est en tout cas transformé en un homme solitaire au fil des ans et très violent. violent que beaucoup d'anciens copains avaient exclu de leur page Facebook. Ils tenaient notamment des propos anticléricaux. Ils qualifiaient les croyants de stupides, ce qui n'est pas vraiment un adjectif très violent, il faut l'avouer. Et ils likaient les groupes athéistes sur les réseaux sociaux. Mais c'est apparemment, vous l'avez dit, un différend familial qui explique son geste, affirment les autorités locales, non ses prises de position religieuses. Sa vie familiale, elle, est bien truvée d'épisodes très violents. En 2012, il est donc condamné pour avoir frappé plusieurs fois sa femme, quelques mois seulement après leur mariage, et avoir fracturé le crâne du bébé de cette première épouse. Condamné à 1 an de prison, dégradé, viré de l'armée de l'air, il enchaîne ensuite les petits boulots et parvient quand même à séduire sa deuxième épouse, qui raconte pourtant qu'elle avait été abusée par Kelly 2 mois seulement avant son mariage en 2014. Entre-temps, en 2013, une enquête est ouverte contre lui, pour viol, enquête classée sans suite. Et puis il sera condamné en 2014, après son deuxième mariage, pour avoir frappé son chiot, qu'il laissait aussi attaché sans eau devant sa caravane en plein soleil. La police avait été appelée par des voisins et il avait dû payer une amende après cette cruauté contre les animaux. Il harcelait également son ancienne petite amie, fréquentée pendant 4 mois seulement, alors qu'elle avait 13 ans et lui 18. Il la poursuivait toujours aujourd'hui sur Facebook via de faux profils. Et sur sa page Facebook, Kelly avait justement posté une photo de son fusil d'assaut, un semi-automatique, avec cette légende « She's a bad bitch ». Le dernier mot se traduisant au choix par chienne, ou vous m'excuserez, par salope. Kelly a tué donc dimanche dernier au moins 26 personnes et le président Trump affirme qu'il s'agit d'une question de santé mentale et non de circulation des armes aux États-Unis.
Tara Schlegel, merci beaucoup pour ces investigations sur donc le profil de l'auteur de la fusillade de dimanche dernier au Texas. Une vaste opération antiterroriste ce matin, 10 personnes interpellées en région parisienne, dans le sud de la France, mais aussi en Suisse. Elles participaient à un groupe de discussion de la messagerie cryptée Telegram, fréquemment utilisé donc par les djihadistes, dans lequel elles tenaient ces personnes des propos jugés inquiétants selon la police judiciaire. L'opération maintenant vise à permettre de préciser les contours des projets qu'elles nourrissaient éventuellement. Le mal-être dans la police française, le bilan trimestriel présenté au dernier CHSCT montre une augmentation du nombre de suicides. 39 fonctionnaires de police ont mis fin à leur jour en France depuis le 1er janvier dernier. Et c'est déjà 3 de plus que l'ensemble de l'année 2016. Suicide qui concerne tous les grades, tous les âges, essentiellement des hommes d'ailleurs. L'arme de service est utilisée dans 50% des passages à l'acte. Et c'est l'Île-de-France qui est la région la plus touchée. Antoine Naret, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc consulté toutes ces données qui ont été publiées ce matin par nos confrères de France Bleu. Quelles sont les raisons finalement principales de la hausse de ces suicides dans la police ?
Alors déjà, des chiffres élevés de suicides dans la police, ça n'est pas nouveau. Il y en a en moyenne 3 fois plus de suicides dans cette profession que dans le reste de la population. Chaque passage à l'acte a sa part de mystère. Il y a bien souvent des causes personnelles, comme une séparation. Mais ces causes personnelles peuvent avoir un lien avec le travail, être force de l'ordre et facteur de stress, d'éloignement familial et de désocialisation. Et bien sûr, les fonctionnaires de police peuvent avoir accès à une arme à feu. La moitié des policiers qui se suicident utilisent d'ailleurs leur arme de service. On en est donc à 39 suicides depuis janvier 2017. C'est encore loin de l'année noire, qui remonte à 96, qui avait compté 71 morts par suicide. Mais depuis 2014, la tendance était au recul. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette remontée des chiffres en 2017 ? Sans doute les attentats et l'état d'urgence. Les syndicats se plaignent d'un rythme de travail facteur de désocialisation. Selon Unité SGP Force Ouvrière Police, la plupart des policiers travaillent désormais 5 week-ends sur 6. Le nombre d'heures supplémentaires a explosé. Le cumul est passé de 16 à 20 millions selon l'UNSA Police. Des forces de l'ordre très sollicitées, davantage en proie à des risques psychosociaux. C'est sans doute l'une des explications de la hausse du nombre de suicides dans la police.
Merci beaucoup Antoine Maret. Avant d'en venir à l'actualité des Paradise Papers aujourd'hui, un mot de cette affaire qui a été révélée par le correspondant en Turquie du journal Libération ce matin. Les employés turcs du géant du prêt-à-porter Zara qui tentent de faire connaître aux clients de la marque, notamment en Europe, leurs conditions de travail. Il y a un message qui a été signé par des ouvriers, qui a été retrouvé dans des vêtements à Istanbul, sur lequel on pouvait lire « Dites à Zara de nous payer ». L'affaire met en lumière les pratiques du secteur. Hakim Kasmi.
Oui Antoine, ce signal de détresse illustre bien la situation des salariés du textile en Turquie. Les 140 employés de la société Bravo Textile se sont retrouvés du jour au lendemain, il y a un an, licenciés et leur patron avait pris la fuite. Leur entreprise vidée est vendue et rachetée par des sociétés de créanciers. Les employés et leurs syndicats ont dû attendre un an pour se faire payer. Payer étant bien grand mot, car toutes les marques concernées ne reversaient finalement que un quart des salaires dus aux salariés de Bravo Textile. Alors que Zara avait pourtant signé avec cette entreprise un accord qui garantissait les conditions de travail des sous-traitants. Il faut dire que le pays, la Turquie, propose une main-d'œuvre bon marché, flexible et qualifiée, ce qui fait le bonheur des grandes marques de prêt-à-porter, comme par exemple Zara, mais aussi Massimo Dutti, Next ou encore Mango. Mais aussi bien le bonheur de la Turquie d'un point de vue économique, car le textile emploie 2 millions de personnes dans le pays. Il représente 2,5% de son PIB et 20% de ses exportations. Face à ces dérives, en France, une loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre a finalement été adoptée et votée en mars dernier à l'Assemblée nationale. Elle rend les entreprises françaises de plus de 5000 salariés, ces entreprises, elles sont désormais responsables et devront rendre des comptes, puisqu'à partir du 1er janvier prochain, les grandes enseignes, comme Mango ou encore Zara, devront faire un plan de sauvegarde qui montrera qu'elles respectent le droit du travail.
Merci beaucoup. Hakim Kasmi, on passe donc à ces révélations du jour des Paradise Papers. Plusieurs groupes mis en cause donc aujourd'hui après Apple et Nike. Voici le cas de Total et de Whirlpool. On commence précisément par regarder de près les pratiques du groupe américain d'électroménager qui a beaucoup fait parler de lui en annonçant notamment la fermeture de son usine d'Amiens où 600 emplois avaient été supprimés, on s'en souvient, sujet qui était d'ailleurs devenu un enjeu de campagne entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais il n'y a pas que sur le plan social que Whirlpool cherche à faire des économies. Abdellah Khaledrissi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez découvert, donc en dépouillant ces fameux Paradise Papers, que peu de temps avant l'annonce de la fermeture du site d'Amiens, Whirlpool préparait aussi toute une mécanique d'optimisation fiscale.
Et cette mécanique repose sur un plan en plusieurs parties. Première partie, Whirlpool fait circuler l'argent entre ses différentes filiales, du Canada au Brésil, du Brésil au Luxembourg et du Luxembourg à nouveau au Canada. C'est une sorte de circuit fermé qui donne le vertige. Il s'agit notamment de se prêter entre filiales, ce qui permet de déduire de son chiffre d'affaires les intérêts et donc de payer moins d'impôts. La deuxième partie consiste à rapatrier des bénéfices, notamment réalisés en Inde, en passant par toutes sortes de pays à la fiscalité bienveillante. L'argent transite ainsi par l'île Maurice, puis le Luxembourg, avant d'atterrir au Delaware, qui est un paradis fiscal au cœur des États-Unis. Résultat, cet argent n'est taxé nulle part, et on parle quand même là de 80 millions de dollars.
Alors aujourd'hui, on a effectivement les traces de ces montages. On sait qu'il s'agissait d'un projet, mais on ne sait pas s'il a été réellement appliqué.
En revanche, il est totalement en cohérence avec la stratégie globale de Whirlpool, qui ne laisse jamais rien au hasard quand il s'agit par exemple de ne pas payer d'impôts. On voit ainsi dans les Paradise Papers que Whirlpool a piloté à distance trois filiales aux Bermudes. Whirlpool n'a pas souhaité répondre à nos questions précisément, mais l'entreprise assume le fait de gérer ses affaires de manière à assurer, dit-elle, aux actionnaires un retour sur investissement tout en respectant les législations.
Merci Abdellah Khaledrissi, vous restez avec nous pour notre invité tout à l'heure qui est en ligne avec nous déjà. On passe à la seconde entreprise, seconde révélation du jour, entreprise française cette fois puisqu'il s'agit du groupe pétrolier Total. Les Paradise Papers révèlent comment Total a pu rapatrier près d'un milliard d'euros sans payer un centime d'impôt. Benoît Colomba, bonjour.
Bonjour.
C'est vous donc qui vous êtes penché sur cette affaire. Comment Total s'y prend donc pour échapper complètement à l'impôt?
Eh bien, c'est très simple. Total a une filiale aux Émirats Arabes Unis. Cette filiale extrait du gaz au large du Qatar et elle est imposée là-dessus. En revanche, ce gaz ensuite, elle le raffine et elle le transporte. Et tout ça génère beaucoup d'argent. Sur 5 ans, on parle quand même là d'un milliard d'euros. Sauf que cet argent-là, il n'est pas taxé. Les Émirats Arabes Unis font un cadeau fiscal à Total, comme ils le font d'ailleurs pour toutes les entreprises qui font autre chose que de l'extraction. Cet argent ensuite, Total le fait remonter aux Bermudes, où là encore, il n'y a aucune taxation. Puis l'entreprise rapatrie cet argent en France, et c'est là que Total profite d'une disposition de la loi française. Elle prévoit qu'on doit être taxé là où on exerce son activité. Or, cette activité, elle a donc eu lieu aux Émirats. Résultat, ce milliard rentre dans les caisses du groupe en France sans faire l'objet de la moindre taxation, avant ensuite d'être redistribué aux actionnaires. Total, de son côté, assure que son implantation aux Émirats n'a rien à voir avec la fiscalité.
pas si simple que ça quand même. Merci beaucoup Benoît Colomba sur franceculture.fr. Vous retrouverez cette enquête très détaillée donc sur les activités de Total. Et on salue notre invité maintenant qui est en direct de Calais, Éric Vernier. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des paradis fiscaux. Ah, il paraît assez logique quand même que ceux qui ont de l'argent le placent, surtout s'ils peuvent le placer sans payer d'impôts, de façon plus ou moins, ou plutôt plus que moins d'ailleurs, légale. Donc ce système-là n'est pas fondamentalement une surprise. En tout cas, on en découvre aujourd'hui l'ampleur avec ces révélations que nous faisons. Mais malgré tout, on pouvait s'y attendre. Est-ce qu'il faut croire la parole des politiques qui disent « on va s'en occuper, on peut faire quelque chose » ou est-ce qu'au contraire, ce système peut avoir un intérêt à être maintenu, le maintien de ce système peut avoir un intérêt pour ceux qui nous dirigent notamment.
J'ai envie de dire que la parole des politiques que vous évoquez, on l'entend depuis très longtemps et que les découvertes à travers les Paradise Papers ne sont pas finalement de vraies découvertes. Ça a été dit depuis longtemps, ça a été écrit, il y a eu de nombreuses affaires, Panama Papers, LuxLeaks et bien d'autres. Et à chaque fois, on a des politiques qui nous disent « nous allons faire quelque chose ». Sauf que on voit bien sur le terrain qu'il peut y avoir des intérêts à ne pas faire grand-chose et je pense plus particulièrement aux Britanniques et aux Américains, mais pas seulement à eux. Chacun, finalement, y trouve un petit peu son intérêt d'une manière ou d'une autre.
De quelle façon, justement ? Parce que c'est ça qu'il faudrait comprendre, l'intérêt qu'il y a à prolonger ce système. Et pour qui ?
Alors, pour les Américains, il y a, entre autres, l'avantage d'avoir des entreprises compétitives, puisque là où elles travaillent, elles ne payent pas d'impôts par ces montages. Finalement, ces entreprises deviennent compétitives, puisqu'elles peuvent générer plus de bénéfices, et elles peuvent même, parfois, réduire leurs prix par rapport aux concurrents étrangers, puisqu'elles ont cet avantage fiscal. Donc, pour les Américains, c'est un petit peu l'idée, avec, d'ailleurs, sur leur territoire, de nombreux paradis fiscaux. Ça n'est pas par hasard.
Question d'Abdallah Khalidrissi.
Oui, dans le cas de Whirlpool, on voit que la multinationale a des dizaines, même des centaines de filiales à travers le monde. Je parlais de ce plan de circulation du cash qui est extrêmement complexe. A priori, il n'y a pas forcément. C'est pas forcément parce que c'est complexe que c'est louche concernant multinationales.
Alors tout à fait, ça n'est pas une preuve d'illégalité, mais on se questionne toujours sur le manque de transparence et la complexité pour finalement une entreprise qui dit qu'elle respecte parfaitement la loi. En fait, ces entreprises profitent des failles juridiques, notamment les failles fiscales, pour s'engouffrer dans ces possibilités de levier fiscal et donc de rentabilité, quelquefois qui va bien au-delà de simplement de l'optimisation fiscale. On est vraiment, et on l'a vu dans les nombreuses affaires qui sont en train de tomber, on est dans une volonté de gagner un maximum d'argent sans pour autant parler de rentabilité rationnelle.
Est-ce qu'on peut évaluer le dommage causé aux États, au budget des États globalement et donc de tout ce que l'État peut faire, en particulier les services publics, de ce qui le manque à gagner ?
C'est énorme. Alors, il y a le chiffre de 350 milliards qui est avancé, qui suit une méthodologie particulière. Mais ce qu'on peut dire quand même, lorsqu'on regarde notamment les pays africains qui, effectivement, pour certains, sont exsangues à cause de cette évasion fiscale, des multinationales notamment, mais on peut aussi parler de la Grèce, où les plus riches, les milliardaires, ne payent aucun impôt dans le pays. Et effectivement, on voit bien que cette évasion fiscale a un impact très 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 important, extrêmement grave, dans de nombreux pays à travers le monde, et même en France. On évoque 20 milliards, si on prend la fraude fiscale et sociale, c'est près de 100 milliards chaque année de manque à gagner pour la France, c'est-à-dire un quart de son budget quasiment.
Abdallah Khalidrissi.
Depuis le début de ces révélations avec Benoît Colomba, avec Jacques Monin, les entreprises nous répondent, quand elles le font, qu'elles respectent à chaque fois les législations. On pointe beaucoup du doigt les pratiques des multinationales. Dans quelle mesure il faut aussi s'interroger sur les législations des pays et ce qui conduit des pays à proposer des législations à un moment donné très attractives pour les entreprises qui se défendent en disant on ne fait que profiter de la législation.
Oui, on s'aperçoit que finalement les politiques ne vont pas au bout de leur logique déclarative et on a de nombreuses failles et c'est en face, on a des multinationales qui s'engouffrent dans ces failles et on a aussi des pays qui font en sorte d'attirer ces entreprises sur leur territoire. On a l'exemple de l'île de Man qui est évoqué depuis ce matin, mais on a de nombreux exemples à travers le monde où effectivement les territoires, et d'ailleurs les paradis fiscaux aux États-Unis ont été créés à la base au 19e siècle pour cette raison, c'est attirer les entreprises entreprises pour avoir des flux bancaires et avoir un petit peu d'activité sur leur territoire. Donc finalement, il y a énormément d'hypocrisie dans tout cela. Et je crois que avant que réellement il y ait un changement, on va pouvoir attendre quelques années, voire plus.
Oui, ça a un effet aussi finalement sur les politiques des États, puisqu'on voit qu'on baisse par exemple les impôts, notamment en France, l'impôt sur la fortune, ou aux États-Unis l'impôt sur les sociétés, en France aussi d'ailleurs l'impôt sur les sociétés, pour dire il faut rester attractif. Donc effectivement, avec ce schéma-là, pour rester attractif, il faudra aller très bas dans l'imposition.
C'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui la réponse immédiate, c'est le moins-disant fiscal. Et donc lorsqu'on rétorque, j'ai encore entendu hier sur un plateau où j'étais, une politique d'En Marche parler malheureusement des retraités qui partaient au Portugal. Évidemment, les retraités payent 0% d'impôts pendant 10 ans. Alors est-ce que la France, pour garder ses retraités, va aussi proposer 0% d'impôts ?
Effectivement, et vous pensez que ces révélations, finalement, ne vont pas avoir d'impact ? On a l'impression qu'elles font beaucoup de bruit pendant un petit moment, et puis que on va passer à autre chose.
Elles ont quand même deux vertus. La première, c'est de prouver ce que nous sommes quelques-uns à dire depuis très longtemps. Hein, et à chaque fois, la réponse est de dire oui, mais vous exagérez, vous êtes paranoïaque. Donc là, au moins, on a de nouvelles preuves qui montrent qu'on ne raconte pas n'importe quoi depuis 20 ans. Le deuxième intérêt, c'est que la population, quand même, commence à être de plus en plus sensibilisée et informée sur cette problématique. Et un jour, je pense que justement, la base fera pression pour que les choses changent au niveau politique.
Merci beaucoup, Éric Vernier. Vous étiez avec Mathieu Darrier, donc dans nos studios de Calais. Merci d'avoir accepté d'être en direct, en duplex avec nous. Un mot du temps qui reste nuageux sur la moitié est du pays. De la pluie sur la Bretagne, un soleil dominant ailleurs. Température 7 à 17 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Stanislas Vazak.